pour investir, le déchiffrage.
Les déchiffreurs sont là. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour,
bonjour
Félix.
Antoine.
Et bonjour à Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
La question qu'on se posait, est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre? Alors, par les pondérations dans les indices, ça c'est un phénomène automatique, la concentration, on a vu ça, etc. Est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre, même quand on prend les valeurs les plus pépères, les plus pères de famille du CAC 40?
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Mais oui, est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre à cette volatilité totalement dingue sur les semi-conducteurs? Bref, est-ce qu'Air Liquide et est-ce qu'Hynix, c'est un petit peu la même chose?
Alors, c'est quand même pas la même chose. Et si vous voulez bien, je vais quand même regarder la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. Mais
oui,
rebondir, bien sûr, sur ce que vous venez de dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Air Liquide est sous les feux de la rampe? D'abord, c'est pour une bonne nouvelle, puisque un record historique a été battu la semaine dernière. Le titre a progressé de quelques 5%. Alors, pourquoi cette petite poussée de fief? Parce que Air Liquide a annoncé un investissement aux États-Unis de 170 millions de dollars pour produire, construire, exploiter et détenir deux unités de production de gaz industriel pour l'approvisionnement, justement, et c'est là où on en vient, de Haskell et Hynix, leurs unités aux États-Unis. Alors, sur le fond, c'est les marchés a bien réagi. Alors, voyons, la bouteille à moitié pleine, c'est quoi? C'est que, en fait, historiquement, le narratif ces dernières années autour de Air Liquide était beaucoup sur l'hydrogène. Et puis, les marchés ont été un peu déçus, un certain nombre de projets ont été reportés. Et c'est vrai que là, le zoom est mis sur la division électronique qui, pour l'instant, ne pèse que 10% du chiffre d'affaires, mais qui progresse fortement. Et une division électronique tirée notamment par les investissements dans l'IA. Et là où je vous rejoins, c'est que, effectivement, Air Liquide est une valeur extraordinaire. De mémoire, il y a autour de 900 000 actionnaires individuels en France sur le titre Air Liquide. C'est plus, il y a quelques années, on était à 400 000. Donc, c'est une progression absolument abyssinale qui se justifie, puisque cette valeur rapporte sur le long terme un taux de rendement interne, en fonction de la date à laquelle vous investissez, autour de 12-13%. Donc, c'est absolument colossal. Mais oui, vous avez raison, ce narratif autour de l'IA atteint maintenant des belles valeurs défensives type Air Liquide. Donc on peut s'interroger, si un jour il y a un coup de grisou sur les marchés, est-ce que ça va aller jusqu'à ce type de valeur? On peut s'interroger.
Je vous donne un autre exemple. Il y a quand même un truc, quand on relevait les compteurs du premier semestre, il y a les trois plus fortes hausses du SBF 120, vous avez dû voir ça comme moi. ST Micro, pas de surprise. Soitec, pas de surprise. Mersen, Carbone Lorraine. Mais alors, oui, mais ils sont exposés aussi à l'IA je l'ai dit pendant le point bourse là tout à l'heure, mais oui, on est en pleine problématique, en plus des terres rares et des matériaux nécessaires à la construction des semi-conducteurs, des circuits électriques, etc. Et encore une fois, on en arrive à cette... est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre?
Alors, bien sûr, mais ça date pas d'hier, ça date même d'il y a plus d'un an. En fait, c'est vrai, vous n'avez plus un communiqué de presse où, je dirais, la direction de l'entreprise cotée n'essaye pas de tirer et de placer le mot magique en espérant bien évidemment qu'il y aura un impact positif sur les cours. Donc, oui, c'est vrai, il faut se méfier. Donc, pour rebondir sur ce qu'on disait la semaine dernière, je pense qu'effectivement, dans cette période d'été, après un premier semestre, vous l'avez dit quand même, un bon premier semestre.
Mais
la
oui.
plupart
oui.
Des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, investisseurs en bourse, les portefeuilles aujourd'hui, sur 6 mois, c'est des progressions autour de 10-15%. Donc, c'est des progressions tout à fait spectaculaires. Donc, je pense que pour cette période d'été, se repositionner sur des belles valeurs comme Air Liquide, qui sont plus défensifs que des valeurs de semi-conducteurs purs et durs, je pense que ça peut tout à fait faire sens, retourner un tout petit peu vers les fondamentaux, prendre du recul. Aujourd'hui, c'est le résultat du bac, et ouais. notamment épreuve en mathématiques. Je pense que cet été, il faut aussi le mettre à profit pour, pourquoi pas, quelques lectures et se remémoriser quelques formules mathématiques, quelques définitions absolument indispensables pour bien gérer son portefeuille à long terme. On le répétera jamais assez, mais calculer un taux de rendement, un TRI, une volatilité, c'est indispensable pour gérer son argent.
Oui,
donc cette période d'été peut aussi être mise à recul pour, se remettre un tout petit peu à quelques mathématiques financières de base indispensables pour bien gérer votre portefeuille. Et puis quelques lectures. Je veux dire, sorti un livre Brève histoire de l'euphorie financière de John Kenneth Galbraith. C'est vraiment un livre Galbraith, phare ouais. sur la spéculation financière et la spéculation boursière. Donc, c'est pas forcément inutile de le ressortir. Et alors, pour revenir quand même sur votre sujet, cocorico quand même avec Air Liquide. Il faut pas hésiter. On ne parle sur votre antenne, mais au revenu aussi. On ne parle que de valeur américaine. Voilà une valeur française. Au sommet. On ne parle que de semi-conducteurs et d'IA. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, Air Liquide, c'est quand même des gaz industriels. Donc, c'est quand même une petite part du chiffre d'affaires lié à l'IA.
Mais
donc,
indispensable aussi, comme ASML est indispensable aussi.
Bien sûr, aussi indispensable. Donc, on est là, je pense que c'est le moment de se repositionner sur des belles valeurs de défense qui peuvent être européennes. D'ailleurs, ça vous a pas échappé, mais Kepler-Chevreux a relevé son objectif de cours à 205 euros. Bank of America Securities aussi passé à l'achat parce qu'ils apprécient cette montée en puissance dans l'industrie des semi-conducteurs avec un objectif à 200 euros. Donc, il faut pas hésiter à y aller, voire à se renforcer, mais toujours, bien sûr, surtout avec les cours actuels. On met en place un investissement programmé, un DCA, pour éviter de se renforcer au plus haut. Et il faut mieux se renforcer sur plusieurs mois, voire sur 12 mois, même sur ce type de très belles valeurs.
D'autant qu'on n'a pas parlé d'un des autres grands métiers d'Air Liquide, qui est de produire du coupon. Et c'est aussi pour ça qu'on l'achète.
C'est de produire du coupon et je dirais plus encore que ça et encore plus d'actualité des actions gratuites. Puisque vous savez que historiquement, en fait, tous les deux ans, Air Liquide distribue une action pour 10 détenus depuis au minimum 2 années civiles pleines avec un bonus pour les actionnaires qui sont nominatifs purs ou nominatifs administrés, puisque eux, ils ont le droit à 1% de plus de dividendes, quand le dividende est distribué cette année, c'était vers la fin du mois de mai de mémoire, ou 1% de plus d'actions gratuites. Donc ça aussi, ça permet de diminuer son prix de revient. Ça, bien sûr, ça fidélise les actionnaires. N'oublions pas qu'Air Liquide, de mémoire, c'est 30% du capital détenu par des actionnaires individuels avec une vraie politique d'actionnariat individuel. Mais voilà, c'était l'occasion, cette progression de la semaine dernière de plus 5%. Je pense que le titre progresse encore aujourd'hui. Record historique pour cette belle valeur franco-française industrielle qui peut, belle valeur de défense, qui peut tout à fait occuper une place significative dans votre portefeuille.
Ouais, 579 euros, on est en 0,8% encore. Plus 25% en 6 mois, enfin c'est ouf. Félix Baron.
Et surtout, c'est une valeur qui baisse très très peu. Enfin, en cas de correction sur les marchés, je regardais depuis 33 ans, c'est une valeur qui a baissé 5 ou 6 années seulement sur 33 ans, donc c'est une performance remarquable.
Félix Baron s'organise du coup une rotation. Alors, on l'attend depuis des mois, des années, mais c'est vrai que du côté des États-Unis, on atteint des niveaux techniques. Particulier du côté des grands indices. Alors on voit qu'en plus SpaceX va rapidement intégrer le Nasdaq 100, ça va encore provoquer des déséquilibres. Il va y avoir l'ADR SKNX, le fameux spécialiste des mémoires du côté du Nasdaq. Du coup, il va peut-être falloir penser à abattre les voiles et en redresser d'autres sur cette deuxième partie d'année.
Sur un terrain dont on vient de parler avec Christian, qui est celui du coupon et du dividende. Ouais. Et Christian parlait de formule mathématique. Retenez-en une. V, valeur de l'action, est égale à D, dividende, divisé par K moins G. K, c'est le taux de rendement exigé par l'actionnaire, et G, le taux de croissance du dividende. Ouais. Ça vous donne théoriquement la valeur d'une action. Donc, n'oubliez jamais que la valeur théorique d'une action, elle, c'est l'actualisation des flux du dividende. Elle ne dépend que de ce qu'elle vous rapporte. Donc, avoir les dividendes en tête, avoir l'idée d'un flux de cash permanent qui rentre dans votre portefeuille va devenir de plus en plus important dans les 6 prochains mois. D'abord chez les institutionnels, chez les grands fonds, les fonds de pension, et ensuite vers les particuliers. Et c'est pour ça qu'il va falloir amorcer peut-être une rotation dans les portefeuilles où, c'est sûr que 80% du temps, la croissance depuis le début de l'année a été tirée par le secteur des semi-conducteurs et de la mémoire, mais que ces boîtes-là qui font énormément de croissance ne distribuent pas de dividendes, et que il va falloir peut-être commencer à regarder les Mag 7. D'ailleurs, sur cette histoire de l'industrie des semi-conducteurs, il y a quand même un point très intéressant qu'on n'avait pas observé depuis depuis toujours, je crois. On est proche des 8000 points sur le S&P 500, et qu'on se le dise, c'est vraiment grâce à AMD, Nvidia, TSMC, Broadcom...
Et compagnie.
Micron et compagnie. Ils ont clairement pris le relais des Mac 7, donc les fameuses Alphabet, Microsoft, Apple, qu'on ne présente plus. Avec un paradoxe quand même, c'est que le marché, depuis 2022, était habitué à être tiré par les 7 magnifiques. Et il se disait à l'inverse, si les 7 magnifiques flanchent, le marché va s'effondrer. Ça n'a pas eu lieu. Au contraire, on est à 1% du record historique absolu. Donc, il y a un signe qui est très important, c'est que sur le marché de la tech, il y a une décorrélation entre le super cycle semi-conducteur et mémoire, et puis les gros mammouths, on va dire, de l'infrastructure numérique et aussi du software. Mais cette décorrélation, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est signe de diversification dans le secteur, de solidité.
Oui.
Donc, sur le terrain, aujourd'hui, pour reprendre une métaphore football, c'est le... C'est actuel. Vous avez les chips et la HBM, la mémoire à haute fréquence. Sur le banc, vous avez les 7 magnifiques, mais qui sont en train de préparer leur retour avec un thème qui est très important d'un point de vue technique. Je vais essayer d'être clair. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tabular data ou les données tabulaires. Le nouvel enjeu.
Qu'est-ce que des... c'est Non, parce que là, en plus, on est sous le flot de « Ouais, investissez dans les cryptos sur la valeur du token d'IA. » Enfin,
j'ai passé mon week-end à en discuter avec un ingénieur en maths qui a fait NormalSup, qui a essayé de m'expliquer.
Oui.
Moi, j'ai fait semblant de comprendre. Et maintenant, je vais faire semblant de m'expliquer.
En réalité, les
grands modèles de langage, donc Gemini, ChatGPT, etc., sont donc la propriété des 7 magnifiques. Le nouvel enjeu de ces éditeurs de modèles de langage, c'est pas tellement d'inventer des modèles d'IA générative, c'est d'aller exploiter ce qu'on appelle les données tabulaires, c'est-à-dire des bases de données structurées en ligne et en colonne, pour faire simple, des fichiers Excel.
Des tableaux Excel,
ou des fichiers Google Sheets, des tableurs, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, les LLM, ils sont excellents pour faire du code, ou pour rédiger, faire de la rédaction, mais ils sont très mauvais pour exploiter les bases de données SQL. Pourquoi ? Parce qu'il y a du texte.
C'est quand même la base du truc, c'est.
Oui, mais ça mélange du texte catégorisé et des chiffres qui sont pas forcément, qui sont des variables continues. Et ça, sans ordre naturel, c'est très différent des phrases. En fait, le mathématiquement, ça fonctionne comme une suite de probabilités, un LLM qui calcule la proba que le prochain mot, ça va être ça. C'est pas du tout comme ça dans un tableur. Et puis, imaginez qu'il y ait une valeur manquante. Ça arrive souvent dans les fichiers
Excel.
Ça fait tout planter. Donc, Microsoft et Google, toujours des 7 magnifiques, qui ont les plus grosses compétences et les plus grosses bases de données en matière de fichiers Excel et de Google Sheets, commencent à faire ce qu'on appelle du TFM, c'est-à-dire du Tabular Foundation Model. Donc, l'IA ne lit plus les données tabulaires. Elle convertit des tableaux complexes en une espèce de données que l'IA peut comprendre. Globalement, un cas d'espèce, si vous avez, je sais pas, 50 000 lignes pour vos produits ou vos clients dans un tableau Excel, ça peut être analysé en 3 secondes pour savoir quel est le produit le plus rentable, le moins rentable et pourquoi. Amazon, par exemple, elle est en train de construire des réseaux de neurones appliqués au tableau, donc LLM appliqués au tableur, pour prédire, par exemple, les ruptures de stock au niveau mondial. Meta est en train d'utiliser cette techno des data tabulaires pour croiser toutes les données qu'elle a sur ses clients et pour personnaliser la pub sans dépendre des cookies tiers. Nvidia, c'est encore plus loin. Eux, ils sont en train de créer justement des data tabulaires synthétiques avec des données qui n'existent pas, mais qui reproduisent des tableaux qui existent déjà pour éviter de violer les RGPD et en fait copier le comportement d'utilisateurs en banque, en santé, etc. Donc, ça va optimiser la supply chain, ça va optimiser les objets connectés, ça va surtout améliorer le ROI financier des boîtes qui vont pouvoir leur confier archives de fichiers.
Mais ça demande une nouvelle manière de penser.
C'est ça qui est très intéressant. On faisait de l'intelligence artificielle en essayant de faire un cerveau qui réfléchissait comme nous.
Ouais.
Nous, on n'est pas capable d'analyser 50 000 colonnes et lignes en 3 secondes. Et là, on dépasse, c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'intelligence, mais qui n'est pas la nôtre et qui est totalement artificielle. Donc, ça peut être un nouveau catalyseur de l'IA, mais là, version plus software que hardware.
Alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est que premièrement, vous êtes en train de nous expliquer qu'on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, globalement, que le travail de base sur lequel on attendait l'IA, pour l'instant, il n'est pas fait, il est plus compliqué que prévu. Et deuxièmement, que ceux qui auront la parole, justement, ceux qui ont les bases de données propriétaires, les fameux Salesforce qu'on regarde en disant oh, « pauvres disruptés, machin », les SAP, etc. et tout, c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont les tableaux.
Non, mais
donc c'est
pour jouer cette tendance, Palantir, Snowflake, Cloudflare, un peu de cybersécurité évidemment aussi.
BlackBerry.
Salesforce, ServiceNow, tout ça. Il ne faut pas oublier qu'après le SaaS Apocalypse, qui a été, à mon avis personnel, assez exagéré, il y a quand même des ingénieurs derrière pour coder.
Coder, c'est ça,
c'est IA. Et que je pense que le deuxième catalyseur, ou le troisième ou le quatrième de l'IA, il va être du côté du software maintenant.
Bon, là, je suis soufflé.
On en reparle dans 6 mois.
Ah, mais oui, avec grand plaisir. Christian Fontaine, ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque qu'effectivement, beaucoup de gens s'inquiétaient du niveau de valorisation des 7 magnifiques. Et effectivement, d'accord avec Félix, au premier semestre, il y a eu une relève de par tout ce qui est semi-conducteur. Donc, ça, c'est plutôt excessivement positif. Il y aura certainement d'autres révolutions tech après. Je vous avoue qu'à titre personnel, je suis totalement incapable de les anticiper. Donc, moi, j'aurais tendance à dire cet adage boursier que moi, je préfère acheter la motte de paille plutôt qu'essayer de trouver une épingle dans une botte de foin. Et donc, jouer la tech américaine via le Standard & Poor's 500, voir si vous êtes un tout petit peu plus... si vous acceptez une dose de risque supplémentaire via un indice Nasdaq 100, voire Nasdaq composite, ça me semble être une excellente stratégie. Mais bien sûr, on reste investi sur la tech.